والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. J'ai fait en islam, dans les versets qu'on a cités, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam et à chaque ummati, chaque personne de cette communauté, à travers ces termes: nous te mettrons sur la voie la plus facile. Rappel, rappel donc, où le rappel doit être utile. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu où il ne mourra ni ne vivra. Réussi, certes, celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Alors, mes chefs en islam, la dernière fois, on avait vu le verset qui concerne la révélation du Coran et un des miracles du Coran, le fait que Allah Azza wa Jal permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mémoriser instantanément les versets qui lui sont lus par l'ange Jibril alayhi salam. À partir du moment où l'ange Jibril lui révèle le verset, immédiatement notre prophète alayhi salatu wa salam le mémorise. Que ce soit un petit verset ou alors des pages et des pages, ce qui humainement n'est pas possible, comme on l'avait expliqué la dernière fois, si personne n'est capable de rapporter mot pour mot ce qu'on va dire dans une assemblée de 30 minutes, sans se tromper sur un terme. C'est impossible, à moins d'enregistrer bien sûr, mais humainement parlant, on ne peut pas écouter un discours de 30 minutes et le répéter mot pour mot. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas droit à l'erreur, lui. Ce que l'ange Jibril alayhi salam lui a apporté, il était de son devoir de le transmettre à chaque sahaba qui le transmettrait par la suite et par la suite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, au début, il craignait d'oublier. Et donc quand Jibril lisait, il répétait et répétait. Et Allah azza wa jalla l'a rassuré que ce Coran, Allah a décidé de le protéger. Et la première étape de la protection de ce Coran, c'est que le prophète le mémorise immédiatement lorsqu'il était révélé. Et puis on a parlé que certaines choses Allah a retirées, c'est des ahkam, des règles qu'Allah a voulu qu'elles soient plutôt appliquées au début, pendant un certain temps, et puis Allah Ta'ala a décidé de modifier la charia en fonction des circonstances. C'est ce qu'on appelle an-nasikh wal-mansukh. Ça, on l'avait expliqué là, la dernière fois. Et ce verset, wa nuyassiruka lil-yusra, nous te mettrons sur la voie la plus facile. On avait expliqué que nous avons cette chance d'avoir une religion qui est facile, une religion qui est accessible. Il n'est pas nécessaire d'étudier des années la religion pour pouvoir la comprendre et pour pouvoir la mettre en pratique. Ce n'est pas que le savant, le mufti, le spécialiste des sciences des hadiths qui va se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Certes, celui qui a la science, qui peut apprendre, qui peut consacrer du temps pour le ilm, alhamdulillah, il se rapprochera encore plus d'Allah. Mais celui qui est commerçant, celui qui est étudiant, celui qui n'a pas de situation, c'est-à-dire quelle que soit notre position dans la vie, chaque musulman a cette chance qu'il peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses bonnes actions et à travers l'éloignement des péchés. La recette est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir la plus grande barbe du monde. Il n'y a pas besoin de mettre forcément des vêtements. Et malheureusement, à La Réunion, on a compris ça. Le bouzlouk, comme on dit, la personne pieuse, c'est celui qui aura des vêtements blancs, qui ne mettra pas son pantalon, chemise, t-shirt. Non, c'est celui qui s'habille toujours, le thob, le kafni, comme on dit ici. Mais on se trompe, mais on est à côté de la plaque, mais immense. C'est terrible l'erreur qu'on fait. Très souvent, nous jugeons les gens par rapport à leurs habits, etc. Vous savez bien que l'habit ne fait pas le moine, ça c'est clair. Mais ce qui est exceptionnel avec ce dîn, c'est que contrairement par exemple aux Nassara, contrairement aux chrétiens, la religion catholique, où les plus proches de Dieu, ce seront des gens qui vont se retirer de la vie. Ils vont se retirer, il ne se mariera pas, il n'aura pas de famille, pas d'enfants, il ne s'investira pas dans la vie de la société, tant en termes de relations sociales, parce qu'il ne vivra pas avec les gens, mais dans un monastère, retiré de la société, ni ne s'investira sur le plan économique, hein, ce ne sera pas quelqu'un qui peut aspirer à devenir riche ou autre chose, c'est quelqu'un qui, pour se rapprocher réellement de Dieu, se doit de devenir un ascète, pas un ermite quand même, mais quelqu'un qui est complètement éloigné des gens, de la société, éloigné du dunya. Tandis que dans notre dîn, pour se rapprocher d'Allah, il n'y a pas de telles contraintes. Il peut être un grand adorateur d'Allah en étant marié, en ayant des enfants, en travaillant, en ayant une voiture, en ayant un appartement, une maison, tralali, tralala, tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire avoir le dunya, mais en même temps se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas nécessaire d'être né, en accent aigu, d'être né musulman pour devenir un proche d'Allah. La proximité, le wilayatullah, devenir un waliyullah, cela n'a aucun rapport avec la lignée. C'est pas parce que moi j'appartiens à telle grande famille qui comporte tant nombre de huffaz al-Qur'an, de savants, qui remontent à telle génération, même si je suis descendant des sahaba ou descendant même du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas une garantie que je vais être dans le droit chemin. Il se peut qu'une personne, subhanallah, Allah guide son cœur la veille, et que par son amour brûlant pour Allah, son désir de se rapprocher d'Allah, en quelques jours, cette personne, il vous grille la priorité, il vous dépasse, il dépasse une vie de ibadat que vous avez fait. Parce que c'est quelqu'un dont le cœur est rempli d'amour pour Allah et rempli de crainte d'Allah. Ça, c'est ce qui est magnifique avec notre dîn. On peut devenir un waliullah en une journée. J'exagère un peu, mais comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un soit sincère, mais rempli de ikhlas, est rempli d'amour pour Allah, est rempli de crainte d'Allah, pour que cette personne, soit automatiquement sur le droit chemin. Si dans le cœur d'un mu'min, il y a la sincérité, il y a l'amour débordant pour Allah, et la crainte d'Allah, et l'amour pour son prophète, alayhi salatu wassalam, alors, bidoun ayishak, sans le moindre doute, cette personne deviendra un waliyullah. Parce que cette personne-là, il sait quel est le sirat al-mustaqim. Quelle est la recette pour rester sur le droit chemin et pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est ce qui est exceptionnel, ce qui est magnifique avec notre religion. Et quand on expliquait la dernière fois, bidnillah, également, on a eu à Yusra, on parlait que d'une religion qui est simple, qui est facile, c'est un dîn qui est accessible. Il n'y a pas de sujet tabou dans la religion. Allez titiller, je ne dirais pas le nom de notre religion, ni les maslas. Dans une autre circonstance, on l'aurait dit, mais allez poser certaines communautés sur leur croyance dans la divinité elle-même, ils finissent par s'en mêler les pinceaux. Une personne qui travaillait chez moi, mon épouse discutait avec elle, c'est quelqu'un de très religieuse, qui pratiquait sa religion, on ne dira pas le nom de la religion. Elle dit que moi je vais tout le temps dans le lieu de prière régulièrement, elle dit mais à un moment donné, je comprends pire, la tête il bloque. Elle dit parfois nous demande l'autorité, hein, le supérieur religieux, n'a tel problème, parfois il vous dit, demande tel. Le lendemain, il dit, ah, ben celle-là demande tel bon Dieu. Ben il varie en trois. Elle dit, ben à la fin, c'est des monothéistes à la base, hein, à la fin on ne sait plus s'il faut demander celui-là, celui-là ou celui-là, on ne sait plus. Elle dit, c'est qui notre Dieu, qui c'est qui nous vient en aide réellement. C'est-à-dire que c'est, il y a beaucoup de confusion. Tandis que, et personne n'est réellement capable de donner une explication concrète sur ce genre de croyance. C'est-à-dire que notre dîn, c'est une religion facile, simple et accessible. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a rien qui ne peut être compris par un musulman. Parce que ce dîn, il faut le pratiquer correctement, il faut le comprendre. Une religion qui est pratiquée de manière traditionnelle, on le fait comme ça, comme si c'était un héritage culturel, ça c'est mauvais ça. On aura fait notre namaz, hein? On aura fait notre salat, on aura fait notre hajj, notre somme, etc. Mais la réalité des actions n'entrera pas si on ne comprend pas quelle est la haqiqat, quelle est la réalité, qu'est-ce qu'il y a à travers cette action, quel est l'objectif recherché et quel est le sens qu'on avait expliqué la dernière fois dans Sabbih Isma Rabbika al-A'la, que le musulman, qu'il arrive enfin à comprendre quand il fait le sejda, ça veut dire quoi ce dia de le sejda, subhan rabbi al-A'la. C'est-à-dire que je me rabaisse au plus proche du sol et en même temps j'élève Allah au plus haut. Je dis Allah c'est le plus haut, le plus fort, le plus élevé. Et quand on dit que ça, bi-isma rabbikal a'la, on doit se mettre à l'esprit, je dois être capable de faire la relation entre ça, Bismi Rabbika al-A'la, et mon Subhan Rabbi al-A'la, en me disant que Allah c'est le plus haut en termes de sifat, en termes de qualité, et c'est le plus haut même, on pourrait dire en guillemets physiquement, Allah il est Mustawa al-Arsh, établi sur le Arsh, c'est le plus grand, le plus fort. Et quand je fais mon sijda, je dois être capable de comprendre quelle est la grandeur d'Allah. Ce hadith magnifique explique que le premier ciel par rapport à ce monde et tout ce qu'il contient, c'est comme une simple bague que quelqu'un enlève de son doigt et il jette fi ardin fala, dans une terre, dans un terrain vague. Ça c'est ce dunya par rapport au premier ciel. Et le premier ciel par rapport au second ciel, la même métaphore. Quelqu'un qui enlève une bague, il l'envoie dans un champ. Ici on a des chancanes ici, donc vous envoyez ça dans un champ, c'est quoi? C'est un milliardième, un millionième, c'est rien du tout. Ça c'est le premier ciel par rapport au second ciel, et pareil le second par rapport au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, et tout ça c'est rien à voir. La métaphore multiplie encore quand on parle du Kursi, et ensuite du Arsh, et ensuite d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que il n'y a pas de mots, il n'y a pas de chiffres mathématiques pour montrer quelle est la grandeur d'Allah. Et moi, si Allah me donne le tawfiq, Muhammad, Ishaq, Yaqub, de me prosterner, de faire un sijda, ça c'est une grande chance de la part d'Allah Azza wa Jal, à moi de faire qadar, à moi de comprendre quelle est la réalité du sijda, quelle est l'importance et quelle est la teneur de ce sijda. Et comment ce sijda me rapproche d'Allah? Hadith Passam dit qu'il n'y a pas une position où le musulman est le plus proche d'Allah que lorsqu'il est en position de prosternation. Alors ce soir, on va tous faire une niyat de se réveiller pour le qiyam al-layl, pour le tahajjud. On va rester dans le sijda longtemps, on pense Allahu Akbar, Allah est grand, Allah est fort, Allah est puissant, Allah est mustawa al-arsh, il est azim, khaliq, rabb, azza wa jal, mudabbir, tous les sifats d'Allah, et là dans le sijda, je demande dua à Allah. Parce que je suis le plus proche d'Allah, et j'ai ressenti la grandeur d'Allah, et là je demande à Allah, khayru ma fi dunya wal-akhirah. Et là, je demande à Allah ce qu'il y a de mieux pour moi dans ce monde, comme de l'au-delà. Subhanallah, on récitait quelques hadiths lundi, dans les dars de Tazkiyah, purification intérieure, on parlait de Al-Bukha, pleurer. Apprenons à pleurer par amour et par crainte d'Allah Azza wa Jal. Le hadith dit qu'une des épouses du Prophète, il venait voir le Prophète, il dit qu'il faisait la prière, Qiyam al-Layl. Le hadith à un tel point que ses pieds se fendaient. Bon, si mes pieds sont pétés, vous voyez, parce que je sors de Makkah, d'accord, donc, mais seulement, ce n'est pas pour les mêmes raisons que pour le prophète, parce qu'on marche, on va faire ci, on va faire ça, à droite, à gauche, donc les pieds sont fragiles. Mais notre prophète, ses pieds se fendaient, hein, la peau se craquelait, parce qu'il passait la nuit, presque la nuit tout entière de le Qiyam al-Layl dans la Salah. Et son épouse explique qu'il y avait comme un ronronnement, c'est-à-dire par exemple, il faisait la salle, il pleurait, c'était comme, dans certains kitabs, c'est comme de l'eau qui bouille, hein, il n'y a plus ça de nos jours, les bouillants d'avant, ça fait comme ça, par exemple, il faisait la salle, il pleurait, alors qu'il est, tout ce qu'il a, il n'a pas fait de péché, mais même s'il l'aurait fait, Allah aurait immédiatement tout pardonné. Mais notre prophète a passé ses nuits dans le Qiyam al-Layl, il passe ses nuits en faisant le sijda, ses pieds se fendit tellement il reste de l'ibadat. Et il dit qu'il demande istighfar, je ne sais pas, je le dis, 70 ou au moins 100 fois par jour. Ça, c'est notre prophète a fait. Donc ce soir, Inch'Allah, on va faire niyat fi Qiyam al-Layl, on va se mettre de le sijda, et je vais réaliser c'est quoi un sijda, et là, je vais demander à Allah tout ce que je veux. Parce que je suis le plus proche de demander le sijda, et c'est le meilleur moment pour demander doua à akhir, thuluthul layl. Le dernier tiers de la nuit. Ce que vous voulez demander, Allah Azza wa Jalla va l'exaucer de la manière qu'il sait qu'il y a un khair, qu'il y a un bien fort. Ah, donc ça, on a vu la dernière fois. Et maintenant, le verset qu'on a lu, Falakir inna fa'ati dhikra. Rappel donc, où le rappel doit être utile. Alors, dans ce verset, il y a deux manières de voir les choses. Certains m'ont fait sont d'avis que à travers ce verset, on comprend que rappel, donc où le rappel doit être utile. C'est-à-dire que quelqu'un qui doit faire le rappel, rappeler les gens de la grandeur d'Allah ou un mas'ala ou quelque chose qui est en rapport avec la religion, un rappel, amr bil ma'ruf, ordonner le bien ou interdire le mal, il dit que certains savants sont d'avis que si on voit que les circonstances ne sont pas adéquates, que je vais expliquer aux gens que ça c'est mal, ou je vais les inviter vers une bonne action, mais si je sais pertinemment à l'avance que c'est des gens qui ne vont pas m'écouter, qui vont mal réagir ou autre chose, donc, selon certains savants, dans un cas comme ça, il n'est pas nécessaire de rappeler, de faire d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'autres savants sont d'avis. Il y a divers genres d'opinions, ça c'est pour qu'on comprenne pourquoi on dit que rappel donc ou le rappel doit être utile, mais l'opinion le plus retenue, le qawl rajih, c'est quoi? C'est que d'une manière générale, le musulman doit essayer au maximum de faire le rappel quand il y a nécessité. Les ulama disent que même si nous voyons que les personnes d'en face, hein, par exemple, vous savez que dans le, je dis au hasard, hein, dans le quartier, il y a des gens qui sont toujours là, des musulmans, l'heure de la salade, ils parlent du jour de milieu, je ne sais quoi, que c'est des gens qui viennent jamais la salade, jamais de jamais de jamais. Mais malgré ça, il est de notre devoir de faire le rappel. Les ulama disent que même si on sait qu'ils ne vont pas venir, mais ce rappel-là, s'il ne profite pas à ces gens-là, ne serait-ce, nous allons profiter nous-mêmes de ce rappel. Parce que, et puis c'est un ibadat, c'est un acte d'adoration de rappeler les gens la grandeur d'Allah, de rappeler les gens vers Allah. Cela rejoint le hadith, lorsque le prophète a.s.w. dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi » Celui qui voit quelque chose de mal, qu'il essaie de l'empêcher ou de le changer par ses mains. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un dans la rue, un musulman en train de boire de l'alcool. D'accord ? Si vous pouvez le faire, attrapez sa main ou prenez la bouteille et rappelez-le, vous n'avez pas honte, subhanallah, ça c'est de l'alcool, c'est haram, c'est interdit, et vous lui faites le rappel. Mais avec la main, c'est-à-dire que vous l'avez empêché. Maintenant, si on n'a pas l'autorité ou si on craint que la personne se fâche ou il y a une bataille ou autre chose, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ. Si vous ne pouvez pas le faire, ben faites le rappel avec la langue. Dites-le quel est le péché, comment c'est grave de consommer l'alcool ou autre chose. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Si même le fait de le dire, vous ne pouvez pas, alors ne serait-ce que par le cœur. Par le cœur, c'est comment? C'est-à-dire que soyez triste que vous voyez un frère dans un péché. Soyez triste que vous voyez un frère dans le péché et que vous ne pouvez rien faire pour lui, mais ressentez la tristesse que de voir une personne qui est dans la désobéissance d'Allah. Parce que ça, c'est une catastrophe, ça, mes chers frères. Quelqu'un qui vit dans la désobéissance d'Allah, ça c'est une catastrophe. Un musulman qui passe ne serait-ce que quelques secondes consciemment dans la désobéissance d'Allah, ça c'est mauvais. Imaginez qu'à ce moment précis, l'ange de la mort vienne et prenne son âme. Allez oublier l'ange de la mort. Mais comment on peut se présenter devant Allah un jour tout en sachant qu'on a passé des moments volontairement dans la désobéissance d'Allah? Quelle ingratitude que celui à qui Allah a donné la foi, celui à qui Allah a donné la santé, celui à qui Allah a donné la possibilité de marcher sur ses pieds, d'avoir tout ce qu'il faut comme bienfait, d'avoir de quoi manger, de quoi boire, il peut se déplacer, il a tout. Et que cette personne persiste à rester dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus bas degré de iman, le hadith dit que ça c'est le plus bas degré de iman, celui qui ne serait-ce, il ressent de la tristesse. Vous voyez un jeune frère musulman, un samedi après-midi, avec un groupe de non-musulmans, de filles, de garçons, en train d'aller au cinéma et tout, ils sont 10-15, vous ne pouvez pas aller le voir, le dire et tout. Vous savez que ça ne va pas être possible. Mais ne serait-ce, ressentez de la tristesse. Et faites dua pour lui. Parce que, si nous ne ressentons même pas de la tristesse, nous ne ressentons même pas de l'amertume que de voir quelqu'un dans le mauvais chemin, ça c'est grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de présence réelle de iman dans le cœur. Parce que le prophète Ali dit que si vous ne pouvez pas dire, ressentez la tristesse. Ça, c'est le plus faible degré de foi. C'est-à-dire que si même ça, je ne ressens pas, c'est extrêmement grave. Il ne faut pas voir que le mal chez lui, il faut voir le mal chez nous aussi. Si ça ne me fait ni chaud ni froid que de voir quelqu'un dans le mauvais chemin, si moi, ça ne me dérange pas de garer ma voiture, et de voir un frère en train assis avec son portable ou je ne sais quoi en face de la masjid qui ne vient pas à la salat, si ça ne me touche pas, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que je n'ai pas compris un des usuls de la religion qui est appelé vers le bien et interdire le mal. Et puis les ulama disent également qu'il y a un grand fitna à travers le fait de rester silencieux face au péché. Si vous voyez des gens faire un péché et que vous dites que de toute façon ça ne sert à rien, on ne dira rien, ben, au moment donné, ils vont finir par se dire que tout compte fait, ce qu'on fait n'est pas mal. Donc, si c'était mauvais, les ulama, ils auraient dit, les savants, ils auraient dit, les du'as seraient venus, nous auraient mis en garde, nous auraient expliqué. C'est ce qu'on appelle as-suku du'anil ma'asi. Le fait de ne rien dire, c'est comme si je ne dis pas qu'on cautionne, mais c'est comme si que, intérieurement, on ne voit pas la chose comme mauvaise. D'accord? Donc, tant qu'on peut faire quelque chose pour notre prochain, le guider ou lui dire des paroles qui le ramèneraient vers le droit chemin, il faut le faire. Et avec le niyat, qu'Allah Azza wa Jal change les cœurs. Vous vous rappelez le verset qu'on a vu il y a peut-être avant les vacances, lorsqu'Allah Ta'ala dit pour sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, le verset ne me revient pas à l'esprit, que فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Il y a le même terme, ذَكِرْ. Fais le rappel, tu n'es qu'un rappeleur. Ô prophète d'Allah, n'oublie pas que la guidée est dans les mains d'Allah. Ce n'est pas parce que c'est Muhammad alayhi salatu wassalam qui va parler que la personne va avoir la hidayah. Son oncle n'a pas eu la hidayah, Abu Lahab n'a pas eu la hidayah, etc. Et d'autres personnes encore. Nuh alayhi salam, son propre fils n'a pas eu la hidayah, alors que c'était un ulul azm qui a prêché vers le subhanallah, vers le din d'Allah pendant plus de 950 années. C'est-à-dire que ce n'est pas le da'i qui donne la guidée, ce n'est pas le beau discours, ce n'est pas la personnalité de l'homme. Non. La guidée est dans les mains d'Allah. Combien de personnes, subhanallah, je vous jure, je vous assure, combien de personnes qui viennent dans les masjids ou nous rencontrer pour se convertir sans qu'il n'y ait eu d'intermédiaire. Sans qu'il n'y ait eu une personne qui a été le voir, le convaincre, l'expliquer, lui donner un Coran en cadeau, etc. Allah guide les cœurs quand il veut et comme il veut, avec ou sans intermédiaire. Et parfois, quand Allah il voit que nous, on ne fait pas le travail du dîn, Allah il prend d'autres personnes. Il leur guide, il leur monte la lumière et ces personnes prennent la relève. Donc à nous de faire attention, de garder les qualités et de souhaiter qu'Allah guide le maximum de gens et que nous restons aussi dans le droit chemin. Il y a une personne que je ne connais pas, que je connais un petit peu, bref, une personne dans Amstan, très éloignée du droit chemin, très, mais alors très, 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 très éloignée. Je voulais faire un geste en faveur de la personne et quelqu'un m'a dit Koussa, Boubla, ou perd de temps. Ou perd du temps, il ne veut plus entendre parler de dîn, allez pas où va lui aller. Il dit, ah bon, c'est nous qui jugeons. Il dit, c'est moi qui juge que lui, il est dans le dalala, dans le mauvais chemin, et lui, il est dans le... A'oudhu billahi minash shaitan rajim. Sur le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait-il fait la da'wa à Abu Sufyan, à la veille de Fath Makkah, après combien d'années passées à Makkah, 13 ans à Makkah, et déjà, Fath Makkah, c'était quand, l'an 10, l'an 8, et 8 années à Madina Munawwara, c'est-à-dire après 18 ans de prêche, là, Abu Sufyan, il va accepter la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Est-ce que ça m'aurait dit qu'Abu Sufyan arrive? Non, mais 18 ans, on a prêché, il n'a pas accepté. Non, on n'est pas en droit de juger que lui, ça ne sert à rien. Là, Wallah. Parce que ce n'est pas ma parole qui va lui donner la guidée. Ce n'est pas son passé non plus. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il ramène son père vers le prophète, alayhi salatu wasalam, le père de Ibn Abu Quhafa, radiallahu anhu. Son père était vieux, il avait la barbe blanche, les cheveux blancs. Il était vieux. Il l'amène vers le prophète, alayhi salatu wasalam, il lui fait lire la shahada, à cet âge-là, subhanallah. Très vieux, d'accord? Vous comprenez bien que ce n'est pas mon discours. J'ai une mission, c'est faire un premier pas, faire un effort, et puis mon cœur doit être avec Allah, je fais droit, et c'est Allah qui donne là. Et combien de personnes, après des années passées dans le mauvais chemin, Allah lui donne la guidée, il revient. Et je vous assure, j'ai connu des jeunes, à l'époque où on était lycéens, etc., des jeunes qui étaient vraiment à côté de la plaque, hein, point de vue de religion, c'était pas ça. Et ces jeunes-là, vous les retrouvez au premier saf aujourd'hui, masjid en ville, alhamdulillah. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, 6 ans, ils n'étaient pas là, je ne sais pas, mais akhiran, en finalité, ils sont revenus et ils s'accrochent au dîn. Allah Akbar. La guidée est dans les mains d'Allah. Si quelqu'un devait les juger au départ, dire, oh, il prend le mauvais chemin, il a commencé à faire cigarettes, ça a mal sorti en boîte, l'alcool, il est parti, il va devenir dealer, il va être je ne sais quoi, narcotique ou mafioso et tout. Et, mais ce n'est pas nous qui jugeons, ça ne se passe pas comme ça. Les cœurs sont dans les mains d'Allah. Vous comprenez, mes chers frères? Mais parfois, c'est le contraire qui se passe, Allah Musta'an. Parfois aussi, il y a des gens qui sont dans le droit chemin, on pense que eux, c'est des jannatis. Et il arrive un événement dans la vie où la personne, Allah, le shaitan, il prend le dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, et la personne se dévie du droit chemin. Ça, c'est la décision d'Allah. Et la personne, elle est actrice également dans ce qui lui arrive. C'est la personne qui œuvre pour choisir son destin et tout a été prédestiné par elle. Donc c'est pour ça, mes chers frères, on doit toujours demander à Allah de nous guider, de nous garder dans le droit chemin de ce fameux Ihdina Sirat al-Mustaqim qu'on demande dans chaque Fatiha et qu'Allah nous donne la mort avec l'iman. Ça, c'est le plus important. Et puis tout le reste, ce n'est pas grave. Tout ce qui se passe autour, ce n'est pas grave. Du moment que je meurs avec l'iman, et qu'Allah soit content de moi, et que j'accède au paradis, Inch'Allah, c'est le plus important. Et tout ce qu'il y a à côté, Wallahi, ce n'est pas grave. facile de dire comme ça, mais je vous assure que c'est pas grave. Parce qu'il y a eu des gens plus pauvres que nous, il y a eu des gens plus malades que nous, il y a eu des gens plus humiliés que nous, il y a eu des gens plus opprimés que nous, parmi les Nabis Anbiya. Yaqub alayhi salam, Job. Youssouf alayhi salam, plus grand maghloum. Le père de Youssouf alayhi salam, Yaqub, le plus grand, la personne qui était le plus éprouvée par la maladie, Ayyub alayhi salam, etc., etc. Éprouvée par les décès des proches, un Nabi alayhi salat wa salam, qui perd son père avant sa naissance, qui perd sa maman, qui perd son grand-père, qui perd son oncle, qui perd son épouse Khadija, qui perd ses fils, qui n'étaient pas censés vivre pour ne pas devenir prophète, etc., etc., qui perd sa fille, etc., éprouvée par la mort. Il y a eu des gens qui ont été beaucoup plus éprouvés que nous, mais l'essentiel, c'était qu'ils meurent avec l'iman. C'était des épreuves qu'Allah leur avait données pour élever leur degré. Et c'est des gens qui ont su vivre leurs épreuves et réussir à les épreuves. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est à côté, Allah, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que si on meurt avec l'iman, c'est le plus important. Qu'Allah nous accepte. Allah nous accepte. Falakir, inna fa'at dhikra, sayadhakkaru man yakhsha, encore 5 minutes, wa yatajannabuha al-ashqa. Quiconque craint Allah s'en rappellera et s'en écartera le grand malheureux. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous explique une réalité. Qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont destinés à être sur le droit chemin, bi'iznillah, amram min Allah, et par l'intermédiaire des actions de ces gens. Ils font des actions qu'Allah agrée et Allah décide qu'ils restent dans le droit chemin. Et il y a l'autre catégorie des gens qui sont dans le mauvais chemin, et ces gens-là, vous pouvez faire autant de rappels, ça ne touchera pas leur cœur. Sayadhakkaru man yakhsha, donc rappel de quiconque craint Allah s'en rappellera. Celui qui a la crainte d'Allah dans son cœur, cette personne réagira au rappel quand on leur parle d'Allah, de la grandeur d'Allah, c'est des gens qui vont revenir. Comme Allah Ta'ala dit au Coran, walladhina idha dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa 'umyana, et dans d'autres versets encore, quand ils entendent les versets, wa idha tuliyat 'alayhim ayatu zadatuhum imana. Les gens, quand ils entendent les versets du Coran, leur foi augmente et leur confiance en Allah également augmente. C'est des gens qui ont la crainte d'Allah dans leur cœur. C'est des gens qui ont l'amour pour Allah dans leur cœur. C'est des cœurs qui sont réceptifs. Ils écoutent, ils comprennent et ils mettent en pratique. Et cela engendre un changement de leur vie. Et malheureusement, Allah m'a ja'alna minhum. Mais malheureusement, il y a wa yatajannabuha al-ashqa. Et s'en écartera le grand malheureux. Le grand malheureux, les ulama, les mufassirins disent que ce sont les kuffars. Ces kuffars-là, malheureusement, leur destin, c'était qu'ils ne trouvent pas la guidée. Et leurs actions n'ont pas été propices pour qu'ils trouvent la hidaya. Et c'est des gens qui sont égarés. Wa yatajannabuha al-ashqa, ceux qui n'ont pas la foi. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Et ceux qui n'ont pas eu la guidée, ceux qui ne voient pas, qui ne veulent même pas voir le droit chemin, et dont les rappels donc ne profitent pas, ces gens-là, Allah Ta'ala cite, décrit leur destination, le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu, alladhi yasla an-nar al-kubra, et ce feu, c'est bien sûr le Jahannam, et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit que anna nar ad-dunya, juz'un min sab'ina juz'an min nar al-akhirah, que comparaison entre le feu de ce monde et le feu de l'au-delà, le feu de ce monde c'est 1/70 du feu de l'au-delà. Et à travers ce hadith on voit encore que on ne peut pas comprendre le dîn avec notre intelligence, avec notre cohérence, parce que je ne peux pas imaginer c'est quoi un feu qui est 70 fois plus brûlant que le feu de ce monde. Le feu de ce monde, quelqu'un il met sa main dans un feu, quelques instants il prend une braise, c'est impossible, c'est irréalisable. D'accord? Donc, allez, cette dame a eu l'actualité dans le journal, sur internet, une dame qui s'était évanouie dans sa salle de bain, et il y a eu de l'eau chaude à 60 degrés qui est tombée sur sa jambe. Il y avait une photo complètement brûlée au second, troisième degré. C'est 60 degrés, hein? Et c'est de l'eau, c'est pas le feu. Le feu aurait consumé, aurait. Et ce serait fini, il y aurait quelques secondes, c'était fini, qu'Allah nous protège. Et le feu du Akhirat, c'est 70 fois plus que ce feu-là. Allah dit que le feu de l'enfer a été attissé, préparé pendant 1000 ans, hatta, je ne sais plus ça commence par quoi, hatta biyadat, si je ne me trompe pas. Ce feu, d'abord, il était blanc. ensuite il est devenu rouge, 1000 ans encore il était chauffé, il est devenu rouge, et encore 1000 ans, 1000 ans il était chauffé, il est devenu noir, et le feu du Jahannam n'est pas un feu rouge, ni un feu jaune comme on voit ici, c'est un feu de couleur noire, et rempli d'obscurité. Comment est-ce possible un feu noir? Humainement, ce n'est pas compréhensible, mais qu'Allah nous protège de sa vision même le jour de Qiyam. Qu'on n'est même pas à comprendre, Inch'Allah, qu'Allah nous éloigne même de la vision du Nar ou Jahannam. Alladhi yasla an-nar al-kubra. C'est pour ça que le feu de Jahannam a été décrit comme an-nar al-kubra, le plus grand feu. Parce qu'il est incomparable avec le feu du dunya. On terminera avec un dernier verset. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. On terminera avec ça. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Où il ne mourra ni ne vivra. C'est-à-dire celui qui, qu'Allah le protège, entre dans ce feu, il ne vivra pas ni ne mourra. Alors comment est-ce qu'on comprend ça? C'est-à-dire, logiquement, une créature, elle est soit vivante, soit elle est morte. Elle ne peut pas être dans une situation intermédiaire. Ce n'est pas de coma ou autre chose. Quand quelqu'un est dans le coma, la personne est vivante de toute façon. Soit vivant ou soit mort. Elle dit, mais là, dans le Jahannam, la personne n'est ni vivant ou il ne mourra ni ne vivra. C'est-à-dire que les Mufassirin disent que la personne qui est dans le Jahannam, la yamutu fayastarih, la personne ne mourra pas. Il n'y a pas de mort dans le Jahannam. Il n'y a pas une mort qui permettra à cette personne de mettre un terme à ses souffrances. Wala yahya hayatan sa'ida. C'est ça le ma'na, wala yahya. Et que la personne ne connaîtra pas c'est quoi la vraie vie. Il y a quand quelqu'un dans le Jahannam, c'est azab sur azab. De seconde en seconde, c'est des punitions, c'est des châtiments qui augmentent en intensité et la personne n'a pas un moment pour souffler. Elle ne comprend plus c'est quoi vivre. C'est plus de la vie, ça, c'est de la torture, c'est de la punition qu'Allah nous protège. C'est pour ça que dans le Coran, il dit que kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Allah mahfadhu. Dit que quand quand la personne de Jahannam, quand sa peau sera entièrement consumée, brûlée, on pourrait dire même cramée par le feu du Jahannam, Allah Ta'ala redonnera ce corps une nouvelle apparence, une nouvelle peau, pour que le azab se perpétue. C'est pas que la personne est brûlée, elle est carbonisée, elle est réduite en cendres et c'est fini. Non. Quand cette étape est terminée, Allah lui redonne vie immédiatement, lui redonne le même corps, la même chair, la même peau, pour que le châtiment se perpétue. Et pour les koufans, pour ceux qui n'avaient pas iman, c'est quelque chose qui est pour l'éternité. Qu'Allah nous protège. Quand on voit les gens qui n'ont pas iman et on a l'impression qu'ils sont heureux, qu'ils mènent la grande vie, la belle vie, ils ont ci, ils ont ça, celui-là il a un yacht, celui-là il est connu, tel star, etc. Parfois on est admiratif. On a dit, oui, il est comme ci, comme ça. Hein? Mais regardez, subhanallah, il a peut-être tout, l'argent, la gloire, la beauté, tout ce qu'il veut, mais la personne n'a pas iman. Et si quelqu'un de son cœur, il n'a pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est quoi la destination de la personne? Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui meurt sans iman, Allah Ta'ala a rendu le paradis haram. C'est pas qu'il n'accédera pas ou les anges ne le laisseront pas entrer. Non. Faqad, qui a été interdit? Faqad haram Allahu. Allah a rendu haram pour cette personne de goûter au paradis. Faqad haram Allahu alayhi al-jannah. Et qu'est-ce qu'Allah a décidé pour la personne? Wa ma'wahu an-nar. La destination de la personne, c'est quoi? C'est le feu de l'enfer. C'est pour ça que quand on a la ilaha illallah de notre cœur, c'est le plus grand cadeau, c'est la plus grande distinction, c'est le plus grand honneur qu'on peut avoir. C'est mieux d'avoir la ilaha illallah et de ne rien avoir de la dunya que de ne pas avoir la ilaha illallah et d'être l'homme le plus riche du monde, le plus célèbre, le plus grand, le plus fort, le plus admiré. Parce que celui qui a tout dans ce dunya, sans iman, c'est la destination, c'est comme on a expliqué, ce châtiment qui se perpétue et qui ne s'arrête jamais. Et dans d'autres versions, on dit que wanada ya Malik. Hein, ils vont demander à Malik. C'est qui Malik? Khazinun Nar. Le gardien de l'enfer. Il va dire ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Dans ce dunya, il voulait vivre éternellement. Si aujourd'hui on vendait un élixir de jouvence, quelque chose qui permettait à l'homme de vivre éternellement, les gens auraient dépensé des milliards, les milliardaires auraient donné tout leur bien pour avoir ça, pour avoir, pour rester éternel. Dans la société, est-ce que vous voyez souvent parler de la mort? Non. On parle des maladies, on parle du sida, on parle du cancer, on parle de tout. Mais on ne parle pas de la mort. Parce que la société occidentale a peur de la mort. Et d'une manière générale, mis à part Ahlul Iman, mis à part ceux qui ont iman de leur cœur, les gens ont peur de mourir. Alors que le musulman, c'est le contraire. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'a. J'ai expliqué ça une fois. Celui qui a envie de rencontrer Allah, ben Allah aussi, il veut le rencontrer. Le mu'min, quand il a iman dans son cœur, quand il sait qu'il est mashallah, il fait ce qu'il faut et qu'il s'éloigne de l'interdit, que dans son cœur, il y a l'amour pour Allah et son objectif, c'est le jannah. Et il le prépare depuis qu'il est petit. Ben, il sait que mon objectif, c'est quoi? J'attends quoi, là? J'attends qu'Allah me rappelle bien lui. Quand Allah me rappelle bien lui, ben Allah me récompense pour la vie passée de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que quelqu'un retourne auprès de son Rabb et que son Rabb soit satisfait de lui. Qu'est-ce que vous voulez après ça? Mais à part ça, qu'est-ce qui est encore d'important? C'est ça le plus important, mon cher. Tandis que celui qui n'a pas la foi, il ne sait pas c'est quoi. Quand il est malade, c'est une catastrophe. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je suis malade, j'ai pris ça, j'aurais pas dû prendre ça, etc. etc. Il ne sait pas c'est quoi Ibtila, c'est quoi les épreuves. Il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que celui qui a iman, c'est quelqu'un qui est heureux. Il a la stabilité dans son cœur. Il a le irtmi'inan. C'est que Ahlul Kufr, jamais il ne pourra avoir un poisson de la tranquillité qu'il y a dans le cœur d'un vrai musulman, d'un vrai mot. Et donc là, dans le Jahannam, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le contraire. Dieu, ô Malik, hein, en ce sens, il y a que Malik, qu'Allah reprenne nos âmes maintenant. Maintenant, on veut mourir, on veut disparaître. Et avant ça, l'étape de l'au-delà, quand ils sont ressuscités, quand ils voient la réalité, la vérité, là où tout ça, j'ai oublié le début. Les gens qui n'ont pas la foi, le jour qu'ils voient le ahwal, et qu'est-ce qu'ils souhaitent là où tout ça ou abîmul ard, qu'ils deviennent eux-mêmes poussière et qu'ils soient anéantis, c'est qu'ils se mélangent à la poussière de la terre, qu'ils disparaissent. Dans le dunya, il était fier, il était riche, il marchait le torse bombé, il a été riche, il avait tout ce qu'il faut. Mais le jour de Qiyamah, lorsque la personne voit la réalité de l'au-delà, la personne aurait souhaité être une poussière et être mélangée à la terre, et que la terre le recouvre, que je n'existe plus, parce que la personne comprend qu'elle s'est trompée d'objectif dans ce dunya. Et là, il demande, yakdu alayna rabbuk, et Mali, qu'est-ce qu'il répond? Qala innakum makithun. Vous êtes en ce sens, vous êtes là pour y rester. Personne ne sort plus. Et c'est pour l'éternité. Et quand l'éternité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. L'éternité, c'est sans fin. Ça continue, ça continue. Et ça n'arrêtera jamais. Donc, si dans notre famille, on a des gens qui n'ont pas iman, si moi-même je suis converti, moi-même j'ai accepté le shahada, et que mon père, ou ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ou un proche, ils n'ont pas eu cette chance comme moi, ils n'ont pas encore eu cette chance comme moi de dire « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », alors mon ficar là, c'est plus de monter de grade dans l'entreprise. Mon ficar, c'est plus d'économiser pour acheter de la voiture là, ni d'avoir le placement, ni d'avoir telle chose. Non! Mon objectif, mon ficar, c'est quoi? C'est que je ne veux pas que mon père aille dans le jahannam. Je ne veux pas que mon grand-père, que ma grand-mère qui m'a élevé, qui m'a donné les bonnes manières, qui m'a, subhanallah, éduqué, cette personne ne doit pas quitter ce dunya sans la ilaha illallah. Comme moi, Allah m'a choisi, m'a guidé, je dois avoir ce désir de guider pour chaque prochain. Et je dois agir en sorte que mon comportement déjà soit un motif de hidayah pour ces gens. Ça doit être mon fikab nuit et jour. Le matin, asbab, j'agis. Les intermédiaires, akhlaq, je rends service, je reste proche, je parle bien avec la personne, je fais ce que je peux. Et le soir, c'est dua. Dua, dua, fikar. Dua pour que la personne obtienne la hidayah. Autrement, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère qui n'ont pas eu le iman, ils feront partie des gens qui demanderont à Malik, qu'Allah nous reprenne maintenant, et que Malik répondra, vous y êtes et vous restez. Qu'Allah nous protège. On terminera avec un hadith en conclusion. Il dit que, hadith rapporté par Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit que, Inna ahla an-nar alladhina la yuridu Allah ikhrajahum la yamutuna fiha wa la yahyun. Ces gens pour qui Allah a destiné le jahannam pour l'éternité, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas iman, ben, c'est eux qui sont dans ce cas. Pas de vie réelle parce que c'est souffrance et ils ne meurent pas. Mais, wa inna ahla an-nar alladhina yuridu Allah ikhrajahum. Ceux qui sont entrés dans le Jahannam, mais pour lesquels Allah a décidé qu'un jour ils vont quitter le Jahannam, c'est-à-dire ceux qui ont iman, parce qu'il y aura des musulmans qui vont entrer dans le Jahannam à cause des péchés, mais ils ont la ilaha illallah dans leur cœur. Donc, Celui qui a la ilaha illallah dans son cœur, là, yukhallad finna. Ne reste pas pour l'éternité de l'enfer. Il va peut-être payer pour ses erreurs, mais ensuite Allah le retire du jahannam. Alors ces gens-là, yumituhum fiha imadatan hatta yusiru fahma. Allah Ta'ala les châtie dans le jahannam jusqu'à ce qu'ils deviennent fahma, comme du charbon, c'est-à-dire grillé. Et après, la souffrance ne va pas recommencer. Parce que ensuite, Allah Ta'ala le fera sortir par les shafa'at du prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, entre autres, la personne obtiendra l'intercession. Mais après combien de temps? Que la personne soit brûlée, carbonisée et inerte. Et là, la personne ressortira. Et là, la personne passera par min anhar al-jannah, par un des fleuves du paradis. Et là, la personne retrouvera son physique, tout l'éclat de son corps, de la lumière qu'il y a dans le corps du mu'min. Et là, Allah Ta'ala lui fera accéder au paradis. Mais ça, c'est pour ceux qui ont iman et qui ont été dans l'enfer. Souvent, il y a des gens qui se disent que, oui, c'est pas grave, on fait des péchés, Allah il pardonne, Allah il est grand, Allah est généreux. Oui, Allah pardonne, oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour qu'Allah nous pardonne? Est-ce que, vous savez que pour qu'Allah nous pardonne réellement, il faut au moins faire le niyat sincère d'abandonner le péché et regretter le péché. Mais si je continue à faire le péché et que je me dis que Allah il pardonne, si je ne regrette même pas, je ne finis pas par détester le péché que j'ai fait et je n'ai même pas honte de mon péché, comment puis-je continuer à dire que Allah est pardon? Qu'est-ce qu'on croit là? Que Allah il est là que pour... Yani Allah accepte il va considérer le pécheur endurci, le mu'min ou le musulman qui a fait une erreur, qui se rattrape immédiatement, il va les considérer comme étant sur un même mustawa, un même degré. Allah il est adl, Allah est juste. C'est pour ça que les gens qui disent comme ça, mais qui sait que si vraiment il n'y a jamais eu de désir de se rapprocher d'Allah, de se faire pardonner, qui peut nous dire que la personne n'obtienne jamais le pardon d'Allah et que le jour de Qiyamah, la personne soit dirigée, soit amenée vers le Jahannam? Comme il y aura des mu'mines qui vont entrer dans le Jahannam, comme les hadiths le prouvent, jusqu'à ce qu'ils soient grillés et qu'ils obtiennent le shafa'at pour qu'ils soient jahannam. Qui est prêt à vivre ça? Personne n'est prêt à vivre ça. Qui est prêt à se dire que bon, je continue à sortir un peu avec les. Aller en boîte le samedi soir pendant encore 5 ou 6 ans, après je me range. Mais qui vous dit que Allah a tellement détesté ce péché qu'on n'a pas pu obtenir, on n'a pas eu les sifats, les qualités pour avoir le pardon d'Allah et que le jour de Qiyamah, Allah nous met dans le Jahannam? Qui est prêt, par compensation pour le péché accompli, qui est prêt à passer quelques années dans le Jahannam? Personne. C'est-à-dire, si quelqu'un est cohérent, la personne doit bien réaliser que les actions que j'accomplis, je verrai leurs conséquences immédiatement le jour de Qiyamah. Celui qui accomplit un atome, la plus petite portion de bonne action, le verra. Mais malheureusement, celui qui accomplit la plus petite portion de péché également, le verra. Allah nous accepte de tawfiq de comprendre, moi-même en premier, nous tous, comprendre la réalité de ces paroles, qu'Allah nous donne tawfiq ce soir de faire qiyamul layl, de faire du'a, de l'istighfar, demander istighfar pour nos péchés, et qu'Allah pardonne ses fautes sur le dunya, et qu'Allah nous donne tawfiq de demander hidayah pour nos proches, pour ceux qui n'ont pas iman, les gens qui travaillent avec nous, nos amis, les gens qu'on estime et qui n'ont pas le iman, et qu'Allah leur guide, leur amène vers le droit chemin, et qu'Allah nous garde le sirat al-mustaqim jusqu'à la mort, hatta yatiyakal yaqin, jusqu'à ce que Malik al-Maud reprenne notre âme, et que Malik al-Maud reprenne notre âme alors qu'on est dans le droit chemin, en accomplissant de bonnes actions, et qu'avant de quitter ce monde, on reçoit les bonnes nouvelles des anges, et qu'Allah nous accueille, et qu'Allah soit satisfait de nous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.